À l'origine de la formation des adultes, on retrouve la forme scolaire en remontant au 19e siècle, au cours du soir pour adultes, et puis même ensuite à partir du milieu du 20e siècle avec la formation continue et la forme canonique du stage. C'est toujours les trois unités du théâtre classique qui dominent la représentation qu'on se fait de la formation. Unité de temps, ça doit se passer au même moment. Unité de lieu dans la même salle ou le même local, et unité d'action, un sachant, un formateur, un professeur et un groupe de personnes qui sont là pour apprendre de ce formateur ou de cet enseignant. Cette forme scolaire correspond également à l'expérience personnelle avec les milliers d'heures que nous avons tous et toutes passées dans ce contexte scolaire. Et cette implicite qui porte nos représentations de ce que c'est que se former, ou de la formation, génère une erreur pédagogique fondamentale aujourd'hui, qui est révélée par les évolutions de la société, contemporaine et qui se traduit par cinq allants de soi ou cinq formes de contresens sur ce qu'est apprendre aujourd'hui. Première source d'erreur, apprendre, ce n'est pas simplement suivre un cours. On sait, ça devient une évidence, qu'avec l'explosion des savoirs et l'obsolescence des connaissances qui sont disponibles aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de suivre un cours à un moment pour acquérir des savoirs. La digitalisation massive et l'accélération des systèmes d'information et de communication ont évidemment transformé considérablement notre rapport au savoir. Il y a un demi-siècle, les sources de savoir étaient exclusivement les livres, les bibliothèques et les enseignants. C'est aujourd'hui évidemment complètement différent, le premier enseignant de la planète étant certainement le professeur Google. On se rend compte également aujourd'hui où on redécouvre le fait qu'on apprend beaucoup dans l'informel, donc en dehors de tout rapport à une institution scolaire ou éducative. Et enfin, les formes qu'aujourd'hui, même juridiquement, les formes qui sont reconnues comme étant de la formation sont extrêmement variées, hein, puisque la loi de 2018 rappelle qu'un parcours de formation peut se passer par étapes de formation à distance ou en présentiel, mais également de formation sur le temps de travail et dans la vie elle-même par l'expérience et éventuellement la validation des acquis de l'expérience. Donc la première erreur serait de penser qu'apprendre consiste à suivre un enseignement, une formation ou un cours. Deuxième source d'erreur, l'enseignement et l'apprentissage, ce ne sont pas des synonymes. Il existe en français et dans beaucoup d'autres langues une confusion entre apprendre quelque chose et apprendre à quelqu'un. Quand en français, par exemple, on dit je vais t'apprendre, c'est à la fois menaçant, mais en même temps c'est un contresens, puisque littéralement, on ne peut jamais rien apprendre à personne d'un point de vue psychologique. La psychologie cognitive, la psychologie des apprentissages contemporaine depuis une cinquantaine d'années, enseigne à force de recherches et de thématiques différentes le fait que le sujet de l'apprentissage, c'est bien la personne elle-même qui, par les mécanismes de perception, les mécanismes attentionnels, par sa motivation, la construction de ses propres représentations, est le véritable non seulement acteur, mais auteur de ces apprentissages. Et le projet de formation sur autrui, cette intention de transformation d'autrui, elle est complètement indépendante finalement du projet de la personne et peut mener dans certains cas abusifs, mais brillamment décrits par Philippe Mérieux, au syndrome de Frankenstein, c'est-à-dire cette illusion de la création de l'autre. Troisième source d'erreur, qui est dans la filiation des précédentes, c'est qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne forme jamais personne. Former, c'est donner la forme à la façon du potier qui agit sur la matière inerte. C'est une conception de l'action sur autrui et de la reproduction des savoirs qui est liée à des contextes de société stables, voire figés, dans lesquels les savoirs sont toujours les mêmes et doivent être reproduits d'une génération sur l'autre. Et il est évident que là encore, depuis certainement une grande partie du XXe siècle, ce modèle n'est plus applicable dans une société qui est caractérisée par son auto-transformation permanente à vitesse accélérée. De ce point de vue, dire qu'on a formé 45 000 personnes, par exemple, dans une entreprise en déclarant cela sur un bilan social, ça peut faire illusion, mais ça ne correspond simplement qu'au fait qu'on a inscrit en formation ces 45 000 personnes. Et rien ou très peu nous permet de dire qu'une partie d'entre elles ont acquis les savoirs ou les compétences qui étaient visées par la formation. Entre une inscription en formation et un apprentissage, il y a évidemment un décalage majeur. Cette présomption d'automaticité entre l'intention de former autrui et la façon dont autrui se saisit de cette intention et la transforme en apprentissage, cette présomption est une source d'erreur majeure aujourd'hui. Quatrième source d'erreur, toujours dans le même esprit, on peut affirmer que, au vu des savoirs actuels en sciences sociales, la transmission est devenue une illusion. Nous ne sommes plus au temps où la radio et puis la télévision faisaient leurs premiers pas et correspondaient à une théorie de la communication par laquelle, pour qu'il y ait transmission, il suffisait finalement d'un émetteur, d'un récepteur, d'un langage commun et de l'absence de trop de bruit sur la ligne pour qu'un savoir X passe d'un esprit A à un esprit B. Les théories de la communication d'aujourd'hui font état du fait que, pour qu'il y ait communication et donc transmission entre deux acteurs, l'un et l'autre jouent un rôle actif dans l'émission d'abord et l'appropriation ensuite du message, ce qui donne à l'apprenant un statut évidemment beaucoup plus actif dans cette transaction qui n'a rien d'automatique. De la même façon, l'idée de transmission est issue d'un schéma qu'on pourrait qualifier de behavioriste, puisque finalement on pose quelque part pour principe que si le stimulus, c'est-à-dire le message, la pédagogie utilisée est de qualité, la réponse, c'est-à-dire l'apprentissage, la réaction de l'apprenant, sera de la même qualité. La psychologie cognitive, depuis le milieu du XXe siècle, a très largement relativisé les enseignements, en tout cas l'hégémonie d'une conception behavioriste du comportement et de l'apprentissage, et les travaux innombrables des grands auteurs, que ce soit Brunner, Vygotsky, Piaget ou Bandura dans le domaine de la psychologie cognitive, ont établi à quel point le rôle majeur dans l'apprentissage se passait du côté du sujet social apprenant, selon les termes du Mazdier. Toujours cette idée de transmission, on voit aujourd'hui, et on l'a vu récemment avec la période du coronavirus, l'idée de transmission est basée sur un modèle biomédical qui est celui du passage automatique d'un virus d'un corps à un autre, finalement. Ou également, on y trouve une métaphore mécanique de la transmission, par exemple, dans une automobile, ou enfin, sur le plan juridique, la transmission d'un héritage. On voit que dans tous ces modèles-là, il n'y a pas de rôle au récepteur autre que celui de recevoir le message qui lui est automatiquement et autoritairement transmis. Ça ne s'applique évidemment pas à la logique de l'apprentissage pour un adulte aujourd'hui. Finalement, l'intention de transmission, elle fait face au choix d'apprendre du sujet et en cela, elle n'a rien d'automatique. Cinquième et dernier élément de cette erreur pédagogique fondamentale, qui est peut-être le plus difficile à accepter aujourd'hui, en particulier quand on est dans les métiers de la formation, il n'y a pas de pédagogie idéale. On se plaît beaucoup à dénoncer les méthodes transmissives, magistrales, frontales, par rapport à des méthodes qui seraient actives, en confondant souvent dans la notion d'activité le fait d'être physiquement mobile, par exemple, ou d'être, disons, d'avoir un comportement actif par rapport à l'activité cognitive d'apprentissage qui elle-même peut tout à fait se dérouler dans des conditions pédagogiques tout à fait classiques et traditionnelles. En d'autres termes, il faut quelquefois mieux assister à une conférence sur un sujet qui nous passionne ou qui a un très fort intérêt pour nous, professionnels ou autres, plutôt que de participer à un jeu de rôle ou à un jeu sérieux ou à toutes sortes d'innovations pédagogiques sur un sujet qui ne nous intéresse pas ou dont auquel nous nous sentons complètement étrangers. La supériorité de certaines approches pédagogiques, en particulier dites actives ou interactives ou encore de pédagogie de groupe, cette supériorité-là, qui est quelquefois, rarement, trop rarement, mais démontrée dans des recherches, est toujours basée sur une statistique de résultats et donc sur une moyenne. Or, la moyenne, dans ce domaine comme dans d'autres, est une abstraction. On pourrait dire de façon un petit peu provocatrice qu'il n'y a pas d'apprenant moyen. La moyenne, dans ce sens, n'existe pas et elle cache des disparités qui sont très significatifs du point de vue des personnes. Donc ce qui peut apparaître comme une méthode en moyenne plus efficace qu'une autre ne le sera que pour une partie centrale de l'effectif qui l'utilisera. Donc attention là aussi à l'illusion de la moyenne. On dit par exemple qu'une vidéo doit durer un certain nombre de minutes. Ce qui est certainement vrai statistiquement sur une population large, mais qui peut être radicalement faux quand la vidéo en question passionne des personnes qui, elles, voudraient bien qu'elle dure beaucoup plus longtemps, ou qu'au contraire, elle en ennuie d'autres qui souhaiteraient qu'elle soit beaucoup plus brève. Apprendre, on le sait aujourd'hui, c'est une activité, c'est un processus idiosyncratique, singulier, radicalement intime, qui n'appartient qu'à la personne qui en est le dépositaire en quelque sorte ou le bénéficiaire. Apprendre, c'est le résultat d'une interaction entre des dispositions personnelles, c'est-à-dire des compétences, un bagage d'expérience, des motivations, des attitudes, l'attitude apprenante en particulier. Bref, tout un bagage personnel représente l'histoire de l'individu et qui entre en interaction avec un contexte qui peut être plus ou moins favorable, qui est le contexte d'un dispositif pédagogique, d'un environnement de travail, d'un environnement personnel, d'une situation dans la vie, à un point nommé, et avec des pratiques qui elles-mêmes sont émergentes, c'est-à-dire qu'elles prennent place à l'intersection, en quelque sorte, au moment de la rencontre entre les dispositions personnelles des gens et les contextes qui leur sont proposés, le résultat pouvant, suivant les cas, être une réussite ou un échec. Finalement, Bertrand Schwartz a très bien résumé la question du rapport de l'adulte à la formation en disant qu'un adulte ne se formera que s'il ou elle trouve dans la formation une réponse à ses problèmes dans sa situation. Ça pourrait être sans doute une citation à inscrire au fronton de l'ensemble des institutions de formation des adultes.